voix nue. Cette semaine, Anaël Pijat rencontre Hervé Di Rosa. Ce soir, artiste et nomade. Bonsoir Hervé Di Rosa.
Bonsoir.
Nous voici à nouveau dans votre atelier à Paris, entouré d'objets de votre collection et puis d'un grand nombre de vos œuvres. Au cours de notre dernière conversation, vous nous avez fait, avec beaucoup d'anecdotes, le récit de votre arrivée à Paris. Vous étiez un jeune artiste sétois, fraîchement inscrit à l'école des arts décoratifs. Vous nous avez raconté la naissance du mouvement de la figuration libre, dont vous nous avez aussi dit que ça n'était pas un mouvement, mais dont vous avez été à l'origine avec François Boiron, Robert Combas et Rémi Blanchard. Nous avons évoqué les nuits parisiennes des années 80, votre vie à New York, dans l'amitié de Keith Haring et de Kenny Scharf, qui étaient déjà des artistes célèbres. Et on a parlé des nombreuses expositions que vous avez eues dans des galeries prestigieuses. Aujourd'hui, nous allons parler de votre retour à Sète pendant quelques années, et d'un grand projet qui vous occupe encore aujourd'hui, une série de voyages, ou plutôt d'étapes, dans de nombreux pays, que vous avez intitulé « Autour du monde ». Donc, en 1986, vous vous réinstallez à Sète. C'est une sorte de retrait par rapport à la folle vie new-yorkaise que vous avez eue, un retour sur votre territoire natal. Pour la première fois, vous vous intéressez à la politique locale, vous parlez même de réhabiter un territoire. Par quoi cela s'est-il manifesté ?
Mais déjà, j'étais une maison, c'était habiter le territoire, c'est la première fois que j'achetais une maison.
Comment c'est, pas mal.
Voilà. C'était pas un Sète, c'était un Frontignan juste à côté, puisque j'avais mon atelier à Ballaruc-le-Vieux, ça faisait un triangle de 3 km de côté, Sète, Frontignan, Ballaruc. Il y avait l'école pour les enfants qui venaient, j'ai mon fils qui est mon premier fils qui est né en 86, et puis ma fille qui est née en 91. Donc c'est vrai que ça marque un vrai arrêt. Aussi un peu de déception, bon, New York, un peu déceptif aussi sur la fin, avec le sida quand même, qui, c'était dur d'être à New York à ce moment-là. Et c'est vrai que j'étais dans toute cette confrérie homosexuelle, avec Keith Haring, avec Cinquenchi, c'est eux qui faisaient les plus belles fêtes, enfin j'ai des souvenirs incroyables, il m'a présenté Diana Ross par exemple le soir, enfin des trucs incroyables, et en même temps, les gens sont malades, ils meurent, ils partent. Moi, je croyais aussi, je suis très, très déçu aussi de l'international Figuration Libre. En fait, l'exposition qui devait avoir lieu aux États-Unis, l'exposition Sœur, après l'exposition Figuration Libre, c'est une succès au Musée d'Art Moderne de la ville de Paris, devait y avoir la même aux États-Unis. Elle n'a jamais eu lieu parce que les Américains, en fait, ont profité de cette introduction en Europe. Ils avaient encore, à l'époque, besoin d'être sur Paris, de passer par l'Europe. C'était très important. D'ailleurs, je me rappelle que Keith Haring, un des premiers trucs qu'il a fait quand il est venu à Paris, ça a été de rencontrer Ali Kaczynski. Donc on voyait les racines européennes de ces artistes qu'on ne considérait que urbains, qu'à travers le graffiti, etc. Et d'ailleurs, Keith Haring ou Kenny Scharf, ça n'a jamais ni Basquiat d'ailleurs. Et Basquiat, moi aussi on l'a rencontré parce que ce qui est rigolo, c'est que moi je travaillais dans la galerie où Keith Haring, Kenny Scharf travaillaient et François Boiron travaillait avec Anina Nosé, qui était la galerie de Basquiat et chez laquelle il était en train de peindre les peintures dans le sous-sol de la galerie. Donc c'était en 82-83 tout ça. Et aussi l'international Figuration Libre, ça fait bon. Donc ça répondait pas. Moi, j'avais trouvé chez les Américains comme pas des âmes sœurs, mais des artistes qui se référaient aux mêmes cultures que les miennes. Et finalement, au fur et à mesure, je me suis aperçu que c'est très différent. Moi, j'écoutais du rock, ils écoutaient que du rap. C'était pas du tout les mêmes options musicales, les mêmes options de vie, les mêmes options politiques. Et la figuration libre en France, alors là, encore plus catastrophique, moi qui croyais à des... Et c'est pour ça que je raffermis les liens avec mon frère et on travaillait de manière très étroite à partir de ces années-là, de 85-86, où tout le monde croit être le chef de quoi que ce soit. Et c'est un peu dérangeant, quoi. Le collectif, tu vois que le collectif ne fonctionne pas à ce moment-là. Et c'est pour ça que j'en crée un autre avec mon frère et aussi, finalement, avec ma famille.
Si on vient quelques années en arrière, dans le moment de New York, vous avez créé toute une galerie de personnages, la famille René, par exemple, qui, on l'a dit parfois, avait un côté un peu autobiographique, assez intime en tout cas. À un moment, vous décidez de tuer tous ces personnages qui avaient des trônes grotesques, qui avaient des aventures picaresques dans vos tableaux, qui avaient quelque chose de, à la fois de très amusant et de très angoissant. Et finalement, quand vous vous installez à Sète de nouveau, vous prenez une nouvelle direction en peinture. Vous vous posez des questions de peinture nouvelles.
Oui, je me pose des questions en peinture et des questions sur moi-même aussi. Il y avait toute cette revendication sociale, punk, cette humiliation de venir d'une famille modeste et tout ça. Tout ça, je l'avais plus. Je gagnais très très bien ma vie. Il faut dire que j'ai eu la chance de vendre mes peintures très tôt. À 20 ans, je gagnais plus d'argent que ce que mon père gagnait dans l'année en travaillant à la SNCF. Et tout ça faisait que je me posais plus les mêmes questions et que aussi je commençais à regarder autre chose. Je commençais à regarder la peinture au 19e siècle, je commençais à regarder les peintres de la Renaissance, je commençais à regarder Jérôme Bosch de manière beaucoup plus intense et tout ça. Et donc j'ai un peu fait table rase, il fallait que je finisse avec ça, ce qui m'est, que je finisse, alors que ça, je n'ai jamais fini avec cette partie autobiographique finalement, avec la partie mythologie, tout ça, c'est une partie autobiographique, et je voulais revenir vraiment à la matière picturale. Et là, je me suis mis à peindre à l'huile, par exemple, j'ai fait des expériences à l'huile, des collages, beaucoup, c'est à cette époque-là aussi où j'ai eu la chance de travailler avec Enrico Bai, grand artiste italien, où j'ai fait toute une... Il venait chez moi, j'allais surtout chez lui, à Vergiate, à côté de chez Fontana. Ils avaient acheté le terrain ensemble. Donc c'était toute une histoire. Enrico Bai, c'est vraiment à l'époque Lucio Fontana, c'est ce peintre qui fait des grands généraux avec des médailles collées. Enfin, c'est des images extrêmement connues. J'étais très heureux de travailler avec lui. Bon, voilà, c'est tout ce genre de recherches qui sont plutôt dans la matière picturale, plutôt que de raconter des choses dont j'avais le sentiment qu'il fallait que je le raconte vite, de manière violente, qui sont le s'évaporerait. Et ce qui est vrai, parce que quand je regarde certaines peintures aujourd'hui que j'ai faites, où justement les parties où il n'y a pas de personnage, de peintures 79, 80, 81, où c'est vraiment comme des instantanés psychanalytiques de moments, quoi, hein, de moments souvent... particulier, difficile et tout ça. Parce que là, je comprends aussi que finalement, la peinture m'aide à me soigner aussi. Parce que je m'aperçois que j'ai quand même quelques problèmes. On ne le dirait pas quand je parle comme ça. Mais d'ailleurs, personne ne me croit jamais quand je dis que je suis en dépression nerveuse quasiment continuellement. Mais on ne me croit pas. Et la peinture me soigne. Je m'aperçois là qu'à Malargue-le-Vieux, je reviens d'un atelier au bord de l'étang de Thau. Un truc que je détestais avant. C'était vraiment un endroit où jamais je me serais imaginé un jour passer des années à peindre là. Hein. Moi, je voyais plutôt le grand atelier à New York, mais je l'avais déjà eu. J'avais ce fameux atelier sur 42e rue à l'époque où il n'y avait pas encore eu le nettoyage de New York. Et donc, je voyais tous les cinémas porno, de karaté et tout ça de mon atelier. Quoi. J'étais au premier étage avec une baie vitrée sur Times Square quasiment, avec tous les dealers, les prostituées. C'était vraiment les films d'Andy Warhol, de Paul Morrissey. C'était vraiment extraordinaire. Et je me retrouve au bord de l'étang de Thau d'un coup et avec une furieuse envie de peindre finalement. Et c'est là où je m'aperçois aussi que la peinture me soigne, qu'elle est génératrice de tout ce que j'ai. Tout ce que j'ai, que je possède, ça vient uniquement de ça. Et que ça peut me permettre aussi de développer autre chose.
En 2016, vous avez fait une exposition à la Maison Rouge qui s'appelait « Plus jamais seul ». Et pourtant, vous avez plutôt l'image d'un artiste très entouré. Aujourd'hui, vous avez 5 enfants, vous vous déplacez en bande, entouré de gens avec qui vous travaillez, qui font quasiment partie de la famille. Au fond, est-ce que vous êtes parfois seul, Hervé Di Rosa, et quel est votre rapport à la solitude?
C'est vraiment la question la plus difficile. C'est la question à laquelle j'essaie d'échapper, et j'essaie d'échapper à la solitude. C'est pour ça que ma vie est peut-être toujours remplie des autres. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les autres. Je ne suis pas trop introspectif. Il est vrai que depuis que j'ai de plus en plus besoin maintenant d'être seul dans mon atelier, mais c'est vrai que j'avais jamais été seul, mais je suis tout le temps débrouillé, il y avait tout le temps du monde dans mon atelier, tout le temps on me racontait que je peignais avec 10 personnes autour, pas forcément j'ai jamais eu beaucoup d'assistants, jamais eu beaucoup d'équipes, on va en parler tout à l'heure, des artisans, qui sont de vrais artisans, qui ont leur atelier avec leur assistant, leur truc. Là, je travaille vraiment avec des structures, déjà, que ce soit en Afrique, au Vietnam ou aux États-Unis, c'est pareil, hein, les structures sont les mêmes. À cette époque-là, c'est mon père qui me faisait les châssis, mon frère faisait les sculptures, enfin, mon père aidait aussi à la fabrication des sculptures, il faisait aussi les caisses, parce que on envoyait des œuvres aux États-Unis. À la fin des années 80, je travaillais beaucoup avec la galerie Wall Shoe, c'est une grosse galerie, qui était à ça, qui a fermé depuis en 93, avec la première crise là, qui était à Los Angeles. Et donc, on remplissait des containers d'œuvres qui partaient aux États-Unis de Balrogue-le-Vieux. C'était un moment comme ça, qui m'a vite lassé aussi. Je dois dire, qui m'a vite lassé. Et ça, c'est difficile pour les gens avec qui je suis. Au bout d'un moment, j'ai commencé à en avoir marre, on peut être dans l'atelier. Et ça faisait que quelques années. En fait, je m'aperçois aujourd'hui, ça m'a paru de mes 10 ans, au moins. J'ai eu envie de voir comment on peignait ailleurs, quoi. Parce que j'en avais marre de. Alors après avoir fait le collage, les bricolages, l'huile, il fallait que je trouve autre chose.
Dans ce moment-là, il y a aussi des tableaux avec des mondes sous-marins qui sont apparus. C'est finalement un peu Seth qui est revenu à cette époque-là aussi dans les images.
Et oui, en fait, je m'approprie Seth à ce moment-là. À ce moment-là, je commence à, puisqu'il n'y a plus mes personnages, je commence à peindre toute une nouvelle mythologie finalement. On revient tout le temps aux choses qu'on sait faire. Et moi, ce que je sais, c'est créer des mondes et des univers. Et c'est un univers avec des pêcheurs, des gens gros, que j'appelle grotesques. C'est vraiment, et c'est ça pour moi aussi, c'est ce qui m'intéresse beaucoup. Truc qui disparaît peut-être aujourd'hui, mais cet aspect grotesque du langage, des gens comme ils sont, des actions là-bas, tout. Surtout après Paris et New York, ça me paraissait vraiment, et toute cette, iconographie aussi, hein, des poissons, de tout ça. Bon, moi, j'adorais les marines, mais après avoir fait quelques marines, j'ai trouvé que c'était vraiment un des sujets les plus ennuyants du monde, quoi. Il y a le Turner qui arrive un peu, des fois, à faire oublier que c'est une marine. Donc, j'ai décidé de faire voir ce qu'il y avait dessous, moi. Ce qui m'intéresse, c'est toujours ce qu'il y a dessous. C'est rarement la surface. Et c'est exactement le même problème qu'avec le tour du monde. Bien sûr, j'avais beaucoup voyagé, hein. J'avais déjà, en 82, on est parti à Tokyo, à première exposition avec Boiron. Et donc, tu vois, il y avait New York, j'ai passé un mois aussi à Tokyo. En 84, je suis parti un mois et demi, il y avait une grande exposition, on devait faire tout sur place avec, justement, Kenny Scharf, Justine Lada, il y avait Louis Jam, enfin, c'était vraiment, j'avais pas envie de voyager pour dessiner ce que je voyais, parce que bien sûr, je connaissais les voyages en Tunisie ou au Maroc de Paul Klee, je connaissais tous ces artistes voyageurs qui me paraissaient déjà un peu presque colonialistes à l'époque. Pourtant, vous voyez, c'était la fin des années 80, on ne parlait pas du tout de ce genre d'histoire. Et moi, ce que j'avais envie de savoir, c'était comment on arrivait à fabriquer, comment en Asie, on arrivait à faire des lacs, et pourquoi on peignait les arbres comme ça, et pourquoi sur le continent africain, quand on faisait des panneaux pour les enseignes, on les peignait de telle ou telle manière, avec quel médium, etc. C'est ça qui commençait à me passionner.
Et donc, cette curiosité, vous l'avez assouvie, puisque vous êtes parti autour du monde dans ce qui est devenu un projet intitulé Autour du monde, qui s'est traduit par un certain nombre de voyages que vous avez faits, de séjours même, de quelques semaines, de quelques mois, et qui venaient peut-être de cette frustration de l'enfance que vous aviez éprouvée à regarder les bateaux partir du port de Sète et pas vous.
Oui, 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 parce que bon, on parlait l'autre jour, on parlait de l'autre soir, que je payais pas, que grâce au travail de mon père, les voyages en train étaient gratuits, mais en fait, finalement, à part aller à Paris, en fait, on n'a jamais voyagé, jamais parti en vacances, parce que mes parents n'avaient pas les moyens, on ne payait pas le train, mais ils n'avaient pas les moyens de payer l'hôtel à l'arrivée. Donc, je crois qu'on est parti un week-end, quand j'ai eu 15 ans, on est parti un week-end de 3 jours à Londres, c'était vraiment le seul voyage dont je me souviens avec mes parents. Moi, mes enfants, ils vont avoir du mal à se souvenir du nombre d'avions qu'ils ont pris. Ça a été vraiment le contraire. Donc, et puis, j'avais beaucoup bougé dans les années 80, mais à cette époque-là aussi, autre siècle, autre mœurs, l'Asie, l'Amérique latine, etc., n'existaient pas au niveau de l'art. L'Afrique, ça n'existait pas. Il n'y avait que l'Europe, les États-Unis, un peu le Japon. Donc j'avais déjà épuisé un peu tous les voyages que je pouvais faire dans le cadre de mon travail. Parce que j'ai toujours détesté aller visiter, aller en touriste, etc. J'ai peut-être souffert, étant donné que Sète est une ville touristique aussi, j'avais peut-être souffert de l'autre côté de l'avenue des touristes, qui était pourtant très appréciable quand j'étais jeune, où il y avait les correspondantes allemandes qui venaient en bus, etc. C'était formidable, cette entrée de jeunes gens, hein, quand on avait 16 ans. Mais finalement, cette frustration-là, je me suis aperçu que j'avais jamais parcouru le continent africain, ni l'Asie, ni l'Amérique latine, ni rien. J'avais beaucoup voyagé, mais finalement qu'en Occident. Et là, j'ai décidé d'aller voir ailleurs.
Cette curiosité, vous l'aviez vraiment d'un point de vue des techniques de création. C'est quelque chose qui évoque, par exemple, les compagnons du Tour de France. Est-ce que vous aviez des liens, vous aviez une curiosité en particulier pour les compagnons?
Pas vraiment, justement. Je me suis aperçu du parallélisme du projet qu'après, finalement. Mais par contre, j'ai tout le temps été fasciné par tout ce qui était impression. On n'a pas beaucoup parlé, mais l'édition est toujours restée mes amours d'enfance, du livre, parce que moi, je suis rentré dans l'art avec le livre, c'est l'image imprimée qui m'a fait accéder à l'art. Je dis toujours, avant de voir une Matisse en vrai, j'avais 17-18 ans déjà, ma formation visuelle avait déjà pris un sacré coup avant de comprendre que la matérialité était différente que de l'image. Donc l'impression... Donc j'ai utilisé toutes les techniques de lithographie, de carborandum, de gravure sur cuivre, sur bois, de sérigraphie, etc. Donc là, il y a tout un côté compagnonnage et technique hein, dans toute l'édition d'art. Ça m'a toujours suivi toutes les années 80 et même jusqu'à aujourd'hui.
Donc pour cette série de voyages, comment vous avez déjà choisi les premières étapes et puis comment avez-vous procédé dans la préparation de ces voyages? Est-ce que vous avez beaucoup lu auparavant? Vous avez trouvé des relais sur place? Comment ça s'est passé?
Ben, comme d'habitude, un peu de manière pragmatique, finalement. Parce que, moi, en fait, finalement, on s'aperçoit aussi que la peinture, c'est la vie, c'est couillon de dire ça. Mais finalement, quand je revois, finalement, c'est, les peintures que je réalise, ou les séries de sculptures, ou d'installations, etc., elles découlent tout le temps d'un moment, de lieu, de gens, de quelque chose. C'est pas, et autour du monde, c'était vraiment, c'est très artificiel, hein, ça fait un peu comme Tintin autour du monde. C'est très artificiel, mais c'était pour réduire un peu, essayer de résumer le propos qui est vraiment extrêmement complexe en fait, et qui est presque inexplicable, puisque finalement je voulais aller, c'était l'Afrique subsaharienne qui m'intéressait parce que je collectionnais déjà beaucoup les enseignes africaines, par exemple, comment dans un endroit du monde où il y a très peu d'expressions graphiques et visuelles, où c'est plutôt la statuaire, l'objet qui est primordial, comment on arrive à faire de l'image publicitaire quand on a besoin à partir des années 50. Sans les moyens techniques de l'Occident. Ça, c'est des problèmes qui commençaient à m'intéresser. Et puis, la vie a fait que j'ai été invité par l'Institut français à Sofia. C'est grâce à Hervé Perdriol, d'ailleurs, parce qu'on avait encore la galerie. Donc, on avait ouvert cette boutique rue du Renard de 88 à 90, on en parlera après, à 90. Et donc, là, on organisait aussi, Hervé Perdriol, avec la galerie de l'art modeste, organisait aussi l'exposition hors les murs. Et c'était une exposition de mes gravures à Sofia. Et là, c'était donc 90-91, le mur venait de tomber. Donc c'était très particulier, c'était la Bulgarie. L'Institut français était à l'endroit où il y avait la police russe, soviétique de l'époque, les bâtiments du KGB de l'époque de Sofia. Donc ils pensaient qu'il y avait encore des micros dans les murs. Ça, c'est une ambiance formidable à Bulgarie, vraiment, et où j'ai rencontré des artistes géniaux. Hein, en particulier qui sont aujourd'hui en France, Valentin Stefanov et Nina, qui sont des artistes vraiment extra. Et là. On me propose une résidence. Bon, et je me dis comment lier, parce que déjà j'avais eu ce projet, j'avais eu en 89 une exposition de gravure aussi dans un institut français à Tunis, et j'avais pu réaliser des sérigraphies avec un atelier de sérigraphie très très primitif qui imprimait les autocollants pour les voitures de police tunisiennes. Donc, mais de manière avec des écrans très très bruts et tout ça, c'était un peu cette approche qui m'intéressait. Comment essayer de faire bien avec un matériel basique, quoi, pour ainsi dire. Hein. Et je savais. Et là, finalement, je me retrouve comment faire mal, parce que moi, je ne sais pas très bien peindre ni dessiner, avec un matériel somptueux qui est la feuille d'or et la tempéra. Et la tempéra étant le maître mot de la peinture, hein, c'est vraiment la peinture à l'état pur, puisque c'est que du pigment avec de l'eau. Et c'est juste là le degré de jaune d'œuf qu'on va mettre dedans ou pas sur le pigment qui va faire que ça va tenir ou ça va se transformer en poussière à nouveau. Et donc, la Bulgarie, on m'invite pour l'Institut français, ce truc. Et donc, je décide de... je regarde les icônes, et coup de chance, je rencontre Roumen Kerinkov, qui est le restaurateur en chef de la Galerie nationale de Sofia. Il commence à me parler des icônes, il me passionne, il m'amène voir des trucs, un type vraiment passionnant. Et il me dit, pourquoi tu ne ferais pas, toi, des icônes? Et tout de suite, moi qui étais sur l'Afrique noire, où j'avais déjà commencé à réfléchir sur les peintures d'anciens, etc., je me retrouve avec vraiment l'origine de la peinture, quoi. Et il me prépare les choses formidablement bien, les panneaux, c'est les panneaux d'Olivier, qui sont trois panneaux qui sont assemblés de telle manière, avec des toiles dessus, avec des apprêts particuliers. À la fin, on a une espèce de surface glacée comme un miroir sur laquelle on travaille avec très peu de couches, avec une peinture qui est très couvrante. Enfin, Et en plus, c'est pas uniquement les techniques qui sont induites, parce que la technique induit la manière de peindre. C'est ce que je veux expliquer aussi. Moi, ce qui est important, c'est un artiste d'enlever ses tics, d'enlever son style presque. Tout ce que le marché ne veut pas, finalement, quelque part, c'est ça la recherche. Parce qu'après, faire ce qu'on sait faire. Et moi, j'avais cette difficulté à la fin des années 90 d'arriver à faire que ce que je savais faire, même si je passais par des chemins différents, des techniques différentes. Mais là, c'était vraiment la main de l'autre qui rentrait en jeu. C'était pas qu'une technique, c'était la main de l'autre et une manière de se servir de ces peintures. Par exemple, la tempéra, c'est très couvrant, donc on ne va pas s'en servir en transparence, donc on va commencer par les couleurs les plus foncées. Enfin, tout ça induit que les images changent. Et c'est ce que j'aime, moi, c'est que mes images vivent en temps réel quand je les fais, quand je les vois.
Est-ce que vous avez l'impression d'une co-création avec ces artisans avec qui vous avez travaillé ?
J'ai pas l'impression d'une co-création. C'est rigolo parce que j'ai fait des œuvres à quatre mains avec Harry Kobach, avec Combas, avec Kenny Scharf, avec beaucoup d'artistes, et avec Boiron, beaucoup d'amis et d'artistes. Mais là, c'est vraiment une compétence technique que je demande. Une compétence technique et des tics stylistiques, finalement. Parce que quand on en reparlera, quand au Cameroun, je dessine une main, par exemple, pour faire le socle, le socle, parce qu'en fait, les bois sont des socles des sculptures en bronze. Quand je dessine une main, lui, il va pas faire ma main, il va tirer vers la main qu'il sait faire, mais qui ne sera pas exactement la main qu'il sait faire, qui sera transformée. Alors, c'est vrai que les ethnologues doivent détester ça, parce que ça déprave l'œuvre réelle, mais c'est là où c'est intéressant, c'est cette rencontre. Donc, c'est pas vraiment un co-travail, c'est vraiment une... Comment on pourrait dire, un chef d'orchestre, c'est vrai que c'est ridicule, mais l'exemple est très simple à comprendre. Un chef d'orchestre, il va pas jouer de tous les instruments, et pourtant il sait comment en jouer. Et les musiciens sont des co-auteurs aussi, mais pas vraiment non plus, c'est aussi une machine. Et quand je travaille avec les artisans, que ce soit avec Romain Kerenkov, qui était seul avec une assistante, mais qui faisait une partie technique que j'étais incapable d'assumer, ou en Afrique, au Cameroun, à Foumban, quand on sculpte les pièces de bois, je suis pas capable de le faire. Il me faudrait, je sais pas, des mois et encore. Donc j'utilise des compétences techniques plus qu'un mélange de création. C'est ça que... C'est là où le débat m'intéresse et où justement je joue là-dessus et cette idée m'intéresse de réfléchir à quel moment, à partir de quel moment c'est. Parce qu'un artisan, souvent, il répète les formes qu'on lui a appris depuis des fois plusieurs générations. C'est pas comme un artiste qui va justement faire le contraire de ce qu'on y en a appris. Depuis la Renaissance, on nous a appris qu'il fallait faire le contraire de ce qu'on voyait. C'est ce que moi j'ai fait aux arts décoratifs, finalement. J'ai voulu faire le contraire. Tout le monde peignait après photo. Et moi, je suis venu avec un morceau de linogravure et j'ai gravé de manière très brutale un morceau de lino, ce qui a donné une image qui n'avait aucun rapport avec la photographie.
Alors, en 93-94, vous vous arrêtez au Ghana. En 95, vous êtes à Porto Novo, au Bénin. Vous allez aussi au Vietnam la même année pour apprendre la laque et les incrustations. Mais je voudrais qu'on fasse une petite pause dans votre tour du monde, Hervé Durosa, pour évoquer une pratique qui commence en 1998. Au fil de vos voyages, mais pas seulement, vous décidez de faire un dessin par jour, sur le vif, le soir ou de retour dans votre chambre, dans une liberté totale. Aujourd'hui, il existe une soixantaine de cahiers de ce travail. Et vous parlez d'une encyclopédie personnelle. C'est un travail qui vous est très cher. Pouvez-vous en dire quelques mots ?
Ah oui, le dessin. C'est vrai qu'après, ça s'est transformé, mais depuis toujours. Oui, parce que c'est un moment de liberté. D'ailleurs, ma femme en repasse souvent sur Instagram, parce que sinon, c'est des dessins que je revois jamais, qu'on voit jamais, et c'est peut-être les choses les plus personnelles, en même temps les plus influencées, parce que c'est influencé par un truc que j'ai vu dans la journée, par une image que j'ai vue dans la journée, souvent une image, plus que du texte, plus que des mots, parfois des mots aussi, et c'est la chose la plus près, finalement, la plus proche, qui ne demande pas qui n'a pas de gouffre entre le moment où je le fais et puis la réalisation finale. Comme par exemple au Vietnam, là on peut revenir au Vietnam, qui est le contraire de ça, où je mets entre le moment où je conçois l'œuvre et le moment où elle est finie, et le moment où je commence la finition, il y a 6 mois qui se passent.
Alors, revenons à votre tour du monde. À partir de 2000, vous découvrez le Mexique à la recherche des peintres d'enseignes ou d'affiches qu'on appelle les rotulistas. C'est un endroit avec lequel vous vous sentez une familiarité particulière et c'est un endroit très important puisque vous y rencontrez Victoire, la femme qui partage aujourd'hui votre vie et qui va donner d'une certaine manière une nouvelle impulsion à ce projet autour du monde puisque à partir de ce moment-là, vous allez faire des stations plus longues dans des endroits, dans des villes. Et notamment, par exemple, en 2002, vous vous installez à Miami, un lieu qui n'est pas forcément un endroit que vous auriez choisi spontanément. C'est un lieu où Victoire a été nommée. Et c'est curieusement un endroit qui donne à votre travail un véritable tournant formel.
Tout à fait. Et ça tombe bien tout ça. Ouais, c'est vrai que le Mexique, j'avais déjà des relations avec le Mexique. Extraordinaire. Depuis 1980, le premier voyage c'était en 89 ou 90. J'étais allé en 98 et en 99, j'étais invité pour faire une conférence, je rencontre Victoire et c'est vrai que ma vie a changé à partir de ce moment-là. Et ces stations plus longues, et justement, le projet au Mexique, c'est le premier avec lequel, qui n'est pas avec un seul artisan, mais avec une gamme, parce que j'arrive là-bas, j'avais l'idée de faire, je sais pas, des masques, je sais pas quoi, et je m'aperçois que j'ai des techniques à ma portée énorme, que ce soit les peintres d'enseigne, le métal moulé, etc. Et je m'aperçois aussi que le projet, ce n'est pas que de l'exotisme. Et c'est vrai que l'étape Miami, pour moi, est très importante parce que je voulais prouver aussi que le tour du monde, c'était pas l'Afrique, l'Asie, mais c'est aussi la Corse, c'est aussi, après, ça va être l'Europe avec Séville et Lisbonne. Mais là, que Miami, l'Occident, c'était important et que aussi là, j'allais essayer de faire quelque chose avec la matière et les techniques du rêve américain. Et c'est quoi la matière et les techniques du rêve américain? C'est le plastique, c'est la résine. Et c'est à partir de là que je fais mes sculptures en résine.
Et des images d'architecture aux lignes beaucoup plus géométriques, modernistes.
Et aussi, je voulais donner à voir le résultat du travail de l'homme. Jusqu'à présent, j'utilisais le travail de l'homme, alors que là, c'était le résultat autour de quadrilatères. On peut faire ce qu'on veut à Miami. Donc, on va d'une maison de style à une maison de design, à rien du tout. Et ces paysages que je voyais tous les jours en passant en voiture ont eu un impact important.
Aujourd'hui, on se trouve à Paris, dans votre très bel atelier, qui est une ancienne imprimerie du côté de Barbès, où vous êtes installé donc depuis une quinzaine d'années. Paris a été une étape de ce tour du monde. Vous avez choisi de montrer des images de la ville assez inattendues, des endroits un peu négligés, des endroits un peu cachés. Et depuis 2014, vous êtes installé à Lisbonne, une ville qui est aujourd'hui de plus en plus accueillante pour des artistes. C'est la plus longue étape que vous ayez faite dans un endroit. Et donc à Lisbonne, quel est le programme ?
Alors aujourd'hui, après toutes ces pérégrinations, vraiment l'envie que j'ai commencé à faire pour l'exposition au Centre d'Art de Béthune, c'est de mélanger des objets, des images de fabrication différentes, et dont les premières choses sont les céramiques à Lisbonne et le travail que j'ai fait à Foumban ces dernières années, et donc quelques
au Cameroun,
à Foumban, et où quelques ateliers continuent à me fabriquer des socles, des pièces qui me manquaient en bois que je suis en train d'adapter aujourd'hui aux céramiques de Lisbonne. Voilà, c'est encore plus de m'exciter pour les prochaines années, encore plus de mélange, plus de bâtardise. Dès maintenant, il faut dire le programme pour après, ça c'est dur, surtout que je suis dans un moment charnière, je comptais sur cette émission pour trouver l'idée de la suite de ma vie. Ce serait bien si à voix nue c'était une étape et qu'on dit voilà, maintenant vous avez encore 40 ans, imaginez ce qu'il va y avoir pendant les 40 prochaines années.
Merci Hervé Desrosa et à bientôt. Nous reprendrons demain la conversation à propos de votre collection.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre d'Anaël Pijat avec Hervé Desrosa. À voix nue, réalisation Guillaume Baldi, prise de son Sébastien Huel, attaché de production Daphné Abgral, coordination Sandrine Trainer. À voix nue s'écoute en ligne et ce podcast sur franceculture.fr.